Selon Wikipédia, un bagage est un sac, une valise, un container, une caisse qui contient les affaires du voyageur pendant son transit. Le voyageur moderne peut s'attendre à ce que ses bagages contiennent des vêtements, des affaires de toilette, des petits objets, certains utiles au voyage ou au retour de celui-ci, des souvenirs. Pour certains, le bagage est représentatif de la richesse de son porteur. Pour d'autres, il signifie la liberté. Il rime avec voyage, bastingage, alpage, largage et tangage. Pour en parler aujourd'hui, je vous propose de suivre le fil de cette échappée littéraire en compagnie d'illustres compagnons de route, mais surtout en compagnie de son auteur, une femme surprenante, pleine d'humour, de culture et de fantaisie, que j'ai le plaisir de recevoir sur nos ondes. Bonjour Hélène Honorat.
Bonjour.
Hélène, tout d'abord, on peut apprendre à mieux vous connaître. Et qui vous êtes ?
Qui suis-je ? Alors, « Sois sage, ô mon bagage », c'est bien sûr un clin d'œil à Baudelaire. « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ». Donc j'ai beaucoup pratiqué les bagages depuis l'enfance, depuis la toute petite enfance. Je suis née à Arcachon, où je n'ai pratiquement jamais habité. Dans mon enfance, avec ma sœur, nous avons habité en Afrique du Nord, mais je n'y suis pas née. Au retour, je crois que cela a suffi à faire que je n'avais pas de racines et j'en étais très contente. Et je n'ai absolument aucun sens de l'orientation. On a pu le vérifier tout récemment pour mon arrivée au studio. Mais j'avais quand même une orientation, une fascination, c'était la lecture, l'écriture, la littérature, les contes, les romans pour enfants, etc.
Toute petite, déjà, vous aimiez lire, vous parlez
oui,
de ça.
Oui, comme ma sœur a 2 ans de plus que moi, j'ai appris à lire pendant qu'elle faisait son apprentissage. Donc, elle rentrait à la maison. Je me souviens qu'on avait des cubes avec un alphabet et des chiffres peut-être sur les différentes faces. Et je jouais avec ça. Et donc, j'étais très, très désireuse d'apprendre.
Et les voyages, déjà, toute petite, dans votre famille, parce que vous dites que vous êtes née à Arcachon, après vous en partez, vous voyagez déjà, toute petite ?
De toute façon, si ça n'était pas le nomadisme géographique, mais c'était également le cas, mes parents ne s'entendaient pas, ma mère était, comment dire, déjantée, dérangée, perturbée. Et donc, si ça n'était pas le nomadisme géographique, c'était le nomadisme scolaire. Je le disais récemment dans une autre interview, entre la maternelle et la classe de quatrième, j'ai changé 11 fois d'école, sans jamais avoir été renvoyée. J'étais prix d'honneur et prix d'excellence.
Et qu'est-ce qui faisait que vous changiez comme ça d'école tout le temps ?
Ma mère, ouais. qui nous trimballait d'un endroit à l'autre. C'était toujours mieux ailleurs. Hein. Il y a même eu une année où on a carrément sauté l'année scolaire. Donc, on travaillait avec le CNED, c'est d'actualité.
Et les lectures qui vous accompagnaient alors, petite fille ?
Les contes et légendes de différents pays, les contes tout court, les collections, la comtesse de Ségur, bien sûr.
Il y a toute une branche, je crois.
Tout était en l'air au château de Ferville. ça reste. Hein. Marguerite, Camille, Madeleine, voilà, toutes les petites collections de Les Rouges et Or, les Trilby, les romans moralisateurs pour enfants, Vacances et Liberté, etc., etc.
Je sais pas, j'ai souvenir aussi des gosses de Lyon. Alors, je sais pas si c'est déjà c'est générationnel, de Ségone, de le Club des Cinq ou le Clan des Sept, etc.
Ah, alors ça, c'est Blyton, le Club des Cinq, ouais. Et le Clan des Sept. J'ai fait ma maîtrise, qui est quelque part ici, perdue dans les soutes de l'université Paul Valéry à Montpellier, parce que j'ai été montpelliéraine par intermittence. J'ai fait ma maîtrise avec mention très bien sur les manières de table dans le Club des Cinq.
C'est dingue comme sujet. Comment ça vous est venu ?
Parce que le Club des Cinq à la maison, c'était le fruit défendu. Je le lisais chez des amis, mais ce n'était pas assez littéraire, oui. pour mes parents. Et puis surtout, c'était extrêmement imprégné d'un tas de stéréotypes, les méchants. Alors, d'abord, c'était un univers très féminin, les mères nourricières. Les méchants étaient en général des subalternes ou des gitans. Et puis, la nourriture symbolisait tout et venait à la place de tout, du sexe, du plaisir, du compagnonnage. Ils se nourrissent sans arrêt et d'une façon extravagante dans le Club des Cinq.
Les récits de voyage pour enfants, il y a quoi comme grand texte ?
Oh, quand j'étais gamine, on m'avait offert l'Iliade, l'Odyssée et des choses comme ça, mais ça n'était pas forcément ce que je c'était pas forcément ce que je préférais.
Il me semble que le Livre de la Jungle, c'est une chose que j'ai aussi de souvenirs d'enfance qui était
Kipling,
le lion.
Le lion, Kessel. Alors le lion, je l'ai lu enfant dans la version expurgée, puis je l'ai lu adulte dans la version complète.
Quand on regarde votre bio, alors en dehors de l'écriture, vous avez été chien d'aveugle, alors ça m'a beaucoup fait rire quand même. Femme de ménage, travaillé à la chaîne, passé une licence de parachutisme professionnel. Alors, le parachutisme, ils en parlent deux fois sur Wikipédia. C'est quoi ces expériences de parachutisme et surtout de chien d'aveugle parce que...
Alors de chien d'aveugle, c'était ici à Montpellier, parce que Montpellier, j'y ai terminé mes études de lettres, j'y ai passé mon CAPES, ma maîtrise, et puis ensuite je suis partie à l'étranger, puis je suis revenue 3 ans à Montpellier, puis je suis repartie à l'étranger, et là j'y suis pour de bon. Mais je suis montpelliéraine d'adoption et en pointillé. Donc c'est quand j'étais étudiante, et effectivement, comme je manquais d'argent, j'ai eu diverses expériences. Une dame qui louait des studios à d'autres étudiants, alors je faisais le ménage, et puis je l'emmenais faire ses courses, je la guidais comme un bon petit chien d'aveugle, et puis je lui faisais aussi son secrétariat, ses lettres, ses papiers. Parachutisme... J'ai commencé quand j'avais 16 ans, je crois, alors qu'il fallait avoir 18 ans. Mais bon, je m'étais arrangée, je m'étais débrouillée. Et puis, j'ai continué. J'ai effectué 601 sauts au total. Et j'ai passé... Alors, à Montpellier, j'ai passé une licence de lettres. Et puis, j'ai passé aussi une licence de parachutisme professionnel. Ça n'était pas à Montpellier, mais je crois que c'était pendant que j'habitais ici. Et ensuite, on faisait le parachutisme professionnel. Ça n'est pas le monitorat, ça n'est pas l'enseignement. Ça consistait à faire du travail aérien, c'est-à-dire qu'on était une équipe avec des pilotes, des parachutistes, et on faisait des meetings en campagne, ou bien des sauts sur des hypermarchés, ou bien sur des stades pour apporter le ballon et ouvrir la compétition.
Donc les mots, mais le sport aussi.
Voilà.
Tout ce que vous avez vécu à l'étranger, on en parle beaucoup dans N'oubliez pas Irma. L'Indonésie, c'est là où vous avez vécu le plus longtemps ?
En tant que poste à l'étranger, oui, en tout cas, 6 années en Indonésie. Mais j'ai vécu aussi 6 ans à Sri Lanka. Mais disons que l'Indonésie, c'est le pays de mon cœur, on pourrait dire un continent, parce que c'est un archipel, c'est immense, c'est énorme, c'est plus qu'un pays.
N'oublie pas Irma, c'est votre livre précédent, qui est déjà édité chez Yovana, même maison d'édition que pour le livre pour lequel on reçoit aujourd'hui. Il y en a eu d'autres avant ?
Il y en a eu d'autres, il y en a eu plusieurs autres. Il y a eu justement, non pas tiré de mes expériences de parachutisme, mais pratiquement prémonitoire, parce que j'ai raconté dans ce livre qui s'appelait Le Dessous du Ciel, j'ai raconté des choses qui se sont passées après, mais c'était quelque chose autour du parachutisme et des pilotes.
Qui a été adapté d'ailleurs à la télé.
Qui a été adapté à la télévision, mais tout ça, je l'ai écrit, mes premiers livres, je les ai écrits sous pseudonyme.
D'accord.
Alors c'était drôle parce que...
Il y avait une raison particulière ou
J'étais fonctionnaire, j'étais enseignante à l'époque. Alors là j'étais en poste aux Antilles et puis on corrigeait des copies avec une collègue, etc. Et on était un petit groupe, on corrigeait des copies et quelqu'un m'a dit « Ah, mon gamin, impossible de le faire travailler en ce moment parce qu'il est tout le temps collé sur le feuilleton, le dessous du ciel. » Je me suis bien gardée de dire que c'était ma faute.
C'était derrière. Quand on est écrivain, on a aussi des sources d'inspiration. Alors, comme on se connaît un petit peu à l'extérieur, vous m'avez parlé de Nicolas Bouvier, qui est important pour vous.
Bien sûr, que j'aimais d'abord avant sa mort et avant qu'il soit particulièrement célèbre.
Et pourquoi il vous touche particulièrement ?
Parce que je crois que j'ai commencé par Le Poisson Scorpion. Et Le Poisson Scorpion, c'est un extraordinaire petit bouquin qui se passe à Ceylan, à Sri Lanka. Et ça m'avait beaucoup touché. Après quoi, j'ai lu tous les autres. J'ai remonté la piste et la pente.
D'autres auteurs qui vous ont...
Ah, des auteurs que j'aime. Ouh là là, c'est difficile. De grands classiques.
Vous êtes une grande lectrice.
Oui. J'essaie. de grands classiques comme Proust, Colette, en matière de poésie Apollinaire, en matière de voyage Sandrart, dans les contemporains Sophie d'Ivry, que j'ai un petit peu présenté récemment à propos de la littérature au féminin. Des poètes, Albert Cohen, Belle du Seigneur. J'ai vu que Belle du Seigneur figurait dans une encyclopédie du mauvais goût. Eh bien, tant pis, je revendique, j'adore Belle du Seigneur.
Belle du Seigneur, c'est tout oui ou tout non. J'ai l'impression voilà. qu'il y a des grands fans et des gens qui passent complètement à côté en aimant notamment, par exemple, tous les féminismes. Il y a quand même un antiféminisme.
Chez l'auteur, oui. mais il ne faut pas confondre l'auteur et les personnages.
Ah, c'est le sujet. En ce moment, c'est vraiment d'actualité. Quand on est comme ça à l'étranger, quand on aime les voyages, c'est important d'avoir des livres en langue maternelle pour se ressourcer, pour s'accompagner, pour vous accompagner justement dans les voyages.
Ah oui, très important, d'autant plus qu'à l'époque, c'était les premiers balbutiements d'Internet. Ça, c'est quand j'étais en Malaisie, mais en Indonésie, à Sri Lanka, on trouvait très peu de choses. Mais il y avait les alliances françaises et ce qu'on appelle maintenant les instituts, les centres culturels, et nous avions des bibliothèques conséquentes en français.
C'est difficile d'avoir des livres en français en voyage. Il n'y a que les bibliothèques, on peut les trouver, ou ça se trouve quand même facilement dans les... À Jakarta, par exemple, est-ce qu'il y a une librairie française ?
À Jakarta, il y avait une librairie française. Il y avait même Tintin traduit en indonésien, mais je crois que malheureusement, la librairie a fermé.
Celle-là aussi ?
À Singapour, il y en a une. À Sri Lanka, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, mais il y avait un Français qui était éditeur et qui a édité l'un de mes livres, un Mari d'Asie. Donc, on trouve quand même... Si on en a besoin, on trouve.
Ou alors on a des gros gros bagages.
Voilà.
On va y revenir après la page musicale que vous avez choisie pour nous. Donc la promenade en traîneau de Mozart. Pourquoi ce choix, Hélène ?
Parce que je trouve que la promenade en traîneau, avec ses grelots, avec sa joie, sa vitesse, c'est très allègre, c'est très gai. Et je trouve qu'on en a besoin un petit peu en ce moment.
De légèreté et d'allégresse.
Voilà.
Et bien on écoute ensemble.
Merci.
Eh bien, nous sommes toujours sur FM+, avec Hélène Hanora pour son livre « Sois sage, ô mon bagage », paru aux éditions Yovana, juste en début d'année. Ça vient juste de sortir, Hélène.
Oui,
tout récent.
Fin janvier, 31 janvier.
Hélène, pour entrer au cœur de votre livre et surtout pour faire comprendre votre style, faire entendre votre style à nos auditeurs, j'ai choisi d'en lire le début.
Voilà. Très bien.
Prononcez à haute voix le mot « bagage ». Que voyez-vous ? Est-ce que cela ressemble aux 460 tonnes d'objets personnels, dont plusieurs limousines et des escalators, avec lesquels le roi Salman d'Arabie Saoudite a pris l'avion pour l'Indonésie en février 2017 ? Ou au sac de routard, portant, tel un Atlante, le globe terrestre sur son dos ? Ou plutôt, la mallette de bijoux accompagnant dans tous ses déplacements Bianca Castafiore, célèbre cantatrice créée par Hergé, toujours affolée à l'idée de leur possible disparition. Ciel, mes bijoux ! Elle le dit plus fort d'ailleurs. À moins que ne surgisse devant nous un légionnaire romain sur le point de prendre le départ avec armes et bagages, dont sa couverture cape, sa casserole en bronze étamé et sa gourde en cuir étanchéifiée à la cire d'abeille. Vous aurez dans tous les cas raison. Le nouveau Larousse illustré en 7 volumes, édition 1898, hérité de mon grand-père, énonce « Bagage ». Du vieux français « bague », « paquet », voire « bague ». Effet, objet empaqueté que l'on emporte avec soi en voyage. Charger, décharger les bagages. Et l'entrée « bague » à laquelle il nous renvoie précise, anciennement, le mot « bague », que l'on écrivait aussi « bague », B-A-G-H-E, était synonyme de « bagage » et désignait tout ce qui composait l'avoir meuble, c'est-à-dire les vêtements, les joyaux, les meubles de prix, les armes et les armures, vases et ustensiles que, en cas de guerre, on avait toujours intérêt à tenir prêt à être rapidement enlevé ou transporté. Moi, ce que j'aimais dans le livre, c'est le ton, déjà. C'est vif. Il y a une petite critique sur Babelio que je ne voulais pas reprendre, mais que je reprends quand même parce que je trouve qu'elle exprime bien ce qu'est le livre. À chaque petite chronique, parce que ce ne sont que des petits textes courts, enfin courts en quelques pages, c'est comme un bonbon. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est sucré, c'est amusant, on accompagne des choses très, très gaies. Il y a des bonbons beaucoup plus amers en fin du livre sur les bagages des camps qu'on a retrouvés en camp de concentration. Il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique.
Non, du tout, hein, du tout. C'est une promenade, une échappée, comme dit mon éditeur, thématique, mais pas chronologique.
Pas mal sur les voyageurs.
Bien sûr.
Sur les grands voyageurs. Et il y a des grands voyageurs qui vous ont plus... on parle d'Alexandra David Neal. Enfin, vous abordez beaucoup de portraits...
Les anglo-saxons m'ont beaucoup inspiré. Les anglo-saxons et le 19e, parce que quand même, il n'y a pas plus excentrique, plus azimuté, plus extraordinaire qu'un voyageur anglo-saxon entre celui qui est aveugle et qui fait le tour du monde
portrait, ouais.
seul avec ses théières et ses bouteilles, ses tasses et ses bouteilles de sherry, entre Percival Skryn qui était consul à l'extrémité ouest de la Chine et qui traversait l'Asie centrale avec sa femme, un ami, un majordome, une petite équipe de locaux autour de lui, une baignoire faite sur mesure, faite sur commande et tapissée d'étain, des valises pleines de linge de maison et qui faisait trois repas raffinés tous les jours avant de prendre son bain.
Cette jeune femme aussi qui part avec sa mère et qui meurt très jeune d'ailleurs.
Ah, Alexine Tinet. Oui. Alors elle était néerlandaise de mémoire et elle recherchait à un moment les sources du Nil, c'était le 19e aussi. Elle part avec sa mère et bien entendu avec tout son univers, elle était extrêmement riche. Elle part avec ses meubles, ses vêtements, de quoi prendre des photos, de quoi les développer, des barques démontables, des lits, tout son environnement, tout son univers. Et finalement, Donc il fallait 36 bateaux, je crois, quand elle était sur le Nil. Et sinon, il fallait 40 mulets et 4 chameaux, de mémoire. Finalement, elle a enterré sa mère, sa tante et une ou deux caméristes. Mais l'expédition, même si elle n'avait pas découvert les sources du Nil, elle avait réuni tout un matériau ethnographique de grande importance. Elle est repartie et je crois que c'est elle qui est allée, cartographier, donc avec toujours avec une équipe hélas toujours trop conséquente et trop voyante. Donc
ils
bivouaquent dans une oasis. Elle est attaquée, elle sort de sa tente, elle lève la main en signe d'apaisement, un coup de sabre lui emporte la main, elle tombe, on n'a jamais retrouvé son corps. Et parmi les hypothèses pour cette attaque, il y a le fait que ce que transportaient ce qui était transporté dans la caravane, c'était de grands bidons qui transportaient de l'eau, et on a cru, les Touaregs ont cru que c'était des coffres-forts qui transportaient des bijoux et de l'or.
Ce qui est formidable en suivant ces grands explorateurs du 19e siècle, c'est qu'on rentre aussi dans tout l'univers des mâles. C'est pour eux qu'ont été construites ces mâles, donc le plus célèbre maletier, c'est ça ?
Oui.
C'est Vuitton, enfin, pour moi c'est Vuitton. Mais alors il y en a, c'est plus des mâles, c'est des chambres à elles toutes seules, ces mâles. Il y a des lits qui s'ouvrent, des lits en toile, des sommiers en toile avec des matelas en paille dessus, en herbe fraîche, et puis plein de tiroirs, c'est un monde fou ces mâles.
Ça c'est entre autres Brazza, explorateur italien de grande famille qui a demandé la nationalité française. Brazza a donné son nom à une ville, Brazzaville, et à une malle, la malle Brazza. Il n'était pas le premier à l'utiliser, mais c'est lui qui l'a rendu populaire parmi ses collègues explorateurs. Et en 1905, Brazza est envoyé en mission. Lui qui avait mené des missions relativement pacifiques en négociant des droits avec les Africains et qu'on traitait de négrophiles parce qu'il s'opposait aux mauvais traitements qu'on pouvait infliger aux tribus en Afrique, il part avec sa femme et donc il commande chez Vuitton deux lits qui sortent de chacun d'une malle comme un grand insecte avec des pattes, ça se déplie. Et puis il effectue sa mission, il tombe malade, il est horrifié par ce qu'il découvre, parce qu'on espérait qu'il allait dire tout va bien, aucun souci chez les peuplades et les tribus. Il est horrifié, il rédige son rapport et il avait demandé à Georges Vuitton de lui faire un casier secret dans sa malle secrétaire. Et il meurt, sa femme, son épouse dira toujours qu'il a été empoisonné. La malle revient sans lui au ministère des colonies et impossible de l'ouvrir. On sait qu'il y a un casier secret, mais où est-il ? Il a fallu appeler Georges Vuitton, l'héritier de la maison Vuitton, qui devant le ministre des colonies a ouvert le casier secret. On en sort le rapport et là, horreur, on se rend compte que c'était pas du tout ce qu'on attendait de Brazza. Ça a été enterré au sens administratif du terme et c'est revenu à la surface plusieurs dizaines d'années après.
Il y a aussi une problématique au moment des crinolines.
Ça, c'était l'époque Napoléon III, Eugénie. Et Eugénie avait fait installer dans sa garde-robe un ascenseur pour que ses tenues puissent circuler sans être froissées. Mais quand elle voyageait, quand il recevait à Fontainebleau et ailleurs, pour elle comme pour ses invités, c'était un vrai casse-tête. On faisait venir le maletier emballeur sur place pour qu'il puisse emballer les fameuses crinolines. Qui plus est, c'était fort dangereux parce qu'il y a eu de nombreux accidents avec ces crinolines énormes qui, frôlant une cheminée ou une bougie, prenaient feu et carbonisaient la malheureuse propriétaire.
A contrario, il y a les voyageurs légers. Alors, est-ce que vous en faites partie, vous, des voyageuses sac à dos et justement le routard ?
Sac à dos éventuellement, routarde je l'ai été beaucoup, longtemps, en Amérique latine, en Asie, mais léger, non. je ne fais pas partie des gens qui voyagent léger. Je les admire jusqu'à un certain point. Il y a un auteur qui a raconté ça de façon très amusante, qui s'appelle, je crois, De Bureau, et qui dit dit surtout, n'hésitez pas, décrivez le contenu de votre sac. Alors un hamac, un poignard à ours, quelques slips, une brosse à dents végétale achetée sur un marché, et voilà, tout va bien. Mais moi pas du tout, je fais partie des gens qui font trois tas, oui, non, peut-être, et qui jusqu'à la dernière minute hésitent et permutent les objets d'un tas à l'autre.
Vous rentrez quand même dans les 20 kilos ou 22 kilos obligatoires.
Et bien entendu, ça c'est maintenant, c'est une obligation.
Il y a le voyage aujourd'hui, c'est plus du tout justement ces grandes expéditions, à part pour les gens très riches, bon, comme on parlait du prince d'Arabie Saoudite. Les gens ont tendance à voyager comment maintenant ?
Tout dépend, parce qu'il y a encore des gens qui ne se soucient pas de l'empreinte carbone. Non seulement le roi Salman d'Arabie Saoudite avec ses 460 tonnes, mais encore plus récemment, je crois, Xi Jinping, venu de Chine avec l'intention de privatiser tout le Negresco à Nice. Finalement, je crois qu'on lui a alloué 2 étages et il voyageait avec son lit, comme la reine Victoria.
Incroyable.
Qui voyageait avec toute sa chambre à coucher, avec ses meubles, avec ses malles pleines de bottines, etc. Donc, il y en a en revanche, il y a les deux catégories. Alors, mon meilleur ami qui parcourt assidûment la planète m'avait branché sur un site sur lequel j'ai découvert qu'il existait le mule. Alors, c'est le marcheur ultra léger, rien à voir avec la mule qui passe de la drogue, ni avec les marcheurs au sens politique du terme, mais c'est le marcheur ultra-léger, donc le randonneur, et puis en face, il y a le mulet, c'est le marcheur ultra-lourd et têtu, qui refuse de se séparer de ses kilos.
Et de cette grosse valise, donc maintenant, parce que la valise qu'on porte comme ça n'existe quasiment plus.
C'est le règne de la valise à roulettes. Mais
et
là
à
encore,
quatre roulettes, parce que moi j'ai vu l'évolution de la poignée, la double
de
roulette,
roues.
Et maintenant la quatre roulettes qui tournent de tous les côtés sur elles-mêmes.
Absolument. Alors là encore, il y a une bataille idéologique entre ceux qui considèrent que c'est un envahissement de la planète qui n'aurait pas eu lieu sans les quatre roulettes. Et un journaliste a écrit un article qui s'intitulait « La valise à roulettes, c'est le mal ». MAL, et puis il y en a un autre qui lui avait considéré qu'au contraire c'était une libération et qu'on était passé du statut de Sisyphe hissant son rocher à celui d'Icare virevoltant et s'envolant dans les aéroports.
Avec la crise écologique, il y a un mouvement de fond là-dessus, sur le voyage de masse. Sans parler uniquement des bagages et de tout ce que ça induit, mais aussi des dégradations que ça se fait, des gens qui écrivent au feutre sur les bas-reliefs à Bangkok. Enfin, c'est un...
Ah, ça c'est la dégradation des bas-reliefs, c'est pas tout à fait nouveau. Malraux, oui, en 1923, il a 22 ans, il part pour le Cambodge avec l'idée de scier des bas-reliefs khmers et de les vendre, donc de les scier sur les temples et de les vendre à des collectionneurs. Et il part avec, il n'a pas un sou, il part avec sa femme, avec des pics, des pioches et une douzaine de scies égoïnes et une seringue anti-venin dont ils n'ont pas appris à se servir, mais il part aussi avec ses cravates et au fin fond de la jungle, il portera ses cravates. Le bagage nous représente, le bagage est notre surface sociale, entre autres.
C'est plein de petites histoires comme ça, on rencontre, c'est à chaque fois des portraits quand même d'être un peu fou, un peu originaux. Et puis, moi, il y a une question que je voulais vous poser quand même, c'est on parle beaucoup de bagages en tant que valise ou sac ou tout ce qu'on a vu avant. Mais quand on parle de bagages, on pense vite aux bagages qu'on a sur le dos. Et la misère est ailleurs, est plus belle au soleil. Enfin, il y a tout quand même où on part avec ses bagages, mais on reste avec ses problèmes. Le rapport du bagage avec les bagages qu'on a sur les épaules à nous, les bagages, vous disiez très bien le mot tout à l'heure. Pas moraux, mais...
Abstrait.
Abstrait, oui.
Oui, j'en ai peu parlé parce que les bagages concrets, c'est déjà tellement vaste. Et mon éditeur m'avait quand même fixé des limites, Yovana. Mais en dehors du bagage fait de tristesse, des exilés, des expatriés, dépatriés, des déportés, il y a le bagage fait de culpabilité qu'on a aussi sur les épaules. Et ça, le seul bagage abstrait, je crois que j'ai cité... C'est Landru à qui, au bord de la guillotine, son avocat s'adressait. Et l'avocat essayait encore de lui faire avouer, puisque Landru n'a jamais avoué. Donc on essayait de lui faire dire si oui ou non il avait tué toutes ces malheureuses femmes. Et Landru, dans une dernière pirouette, a dit à son avocat « Cela, maître, c'est mon petit bagage ».
Il y a les bagages universitaires aussi, avoir des bagages, c'est aussi beaucoup utilisé.
Bien sûr.
Et c'est vrai que c'est un mot large, en définitive, bagage. Le livre se termine sur une note plus désespérée, plus difficile. C'est le bagage des qu'on a retrouvé en camp de concentration, notamment avec l'histoire de ce garçon qui a voulu récupérer le bagage de son père.
Oui, c'est la valise de Pierre Lévy. Mais ce n'est pas tout à fait la fin. Hein. La fin se termine, le livre se termine sur une note un petit peu plus onirique et poétique, avec tout ce qu'on emportait en Mésopotamie, en Chine, en Égypte, tout ce qu'on emportait avec soi. Mais l'histoire de Pierre Lévy, c'était un bijoutier, un joaillier qui a été déporté. Il avait mis sa femme et ses enfants à l'abri. Il est mort à Auschwitz et... En 2005, je crois, son fils visite le musée de la Shoah et il y trouve la valise de son père qui avait été prêtée par le musée d'Auschwitz, puisqu'on racontait aux déportés qu'on allait leur rendre leur bagage, qu'ils étaient là pour travailler quelque temps et donc on leur faisait étiqueter leur bagage, on leur faisait écrire leur nom, voire même certains écrivaient leur date de naissance dessus. Et dans un prêt du musée d'Auschwitz à la France, cette valise était venue, on l'a authentifiée. Il y avait effectivement une étiquette manuscrite, il y avait la poignée était arrachée, il n'y avait plus de couvercle, mais c'était bien la valise du père de Michel Lévy. Donc il demande à ce que cette valise reste en France. Il dit « Je ne la veux pas chez moi, elle sera au musée où elle pourra figurer pour un temps indéterminé ». Et il s'ensuit un procès parce que le musée d'Auschwitz ne veut pas se séparer de cette valise. Et donc je vois ça sur Internet et je ne trouve pas l'issue du procès. Je voyais qu'il y avait des titres dans la presse, « Bataille pour une valise venue d'Auschwitz ». Alors j'ai téléphoné au mémorial de la Shoah, on m'a dit « Voyez aux archives on m'a dit « Voyez telle personne, écrivez », j'ai écrit et on m'a répondu et la valise au terme du procès est restée en France, elle est toujours là.
Il y a une histoire particulière qui vous touche plus ou moins, je sais pas, Machado par exemple, c'est très beau, tout le passage sur Machado.
Ah, Machado, j'ai découvert la tombe de Machado à Collioure grâce à des amis, une amie avec qui on était en balade à Perpignan et à Collioure et qui voulait absolument aller la voir. Et j'ignorais qu'elle était là, je connaissais bien sûr l'histoire de la retirada avec tous les républicains espagnols qui ont franchi parfois les pieds dans la neige la frontière entre l'Espagne et la France à l'issue de la guerre d'Espagne. Et nous sommes allés voir la tombe de Machado et elle est très gaie. Il y a des pommes de pin, il y a des drapeaux, et il y a des petits billets que tous ses fans viennent encore déposer sur sa tombe, à tel point qu'on a créé une boîte aux lettres qui est régulièrement relevée et où les gens viennent s'adresser à Machado et lui écrire des poèmes et de petits messages.
Mais c'est sûr que c'est quelques mots qu'on va se quitter, Hélène. Merci beaucoup d'être venue à notre rendez-vous. Et je rappelle donc le titre de votre livre, « Sois sage au mon bagage », paru aux éditions Yavanna en début d'année, qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies, notamment à la Géosphère, qui est votre librairie de cœur, je crois.
Absolument.
Avec Magali. On leur fait un signe à nos amis de la Géosphère. Merci beaucoup. Merci, Hélène.
Merci.